Je vous invite, sans plus tarder, à ouvrir la Bible dans Colossiens. Nous allons faire quelques lectures, mais une toute première qui se trouve dans Colossiens. Et alors que je préparais ces instants, que je cherchais un petit peu sur quoi j'allais pouvoir partager la parole, j'ai eu cette parole dans le cœur. Parle-leur des Colossiens. Parle-leur des Colossiens. Est-ce que vous connaissez bien l'épître aux Colossiens? Moi, j'avoue que ce n'était pas mon fort. Et je me suis appliqué à regarder ce qui était dedans et les trésors qui sont cachés dans l'écriture. Et en tout cas, quand Paul a écrit ces choses, il y a un but qui est bien défini dans Colossiens chapitre 1er. Et le verset 28, il est dit ceci. Colossiens 1, 28. C'est lui, donc il est question de Jésus, c'est Jésus que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. Et Paul rajoute, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Ce à quoi travaillait Paul de tout son cœur, de toute son âme, c'était de rendre les Colossiens des hommes parfaits devant le Seigneur. Bien sûr, on comprend que c'est la perfection sur la terre où on ne fera plus jamais de mal, où on ne dira plus jamais des choses mauvaises, mais s'appliquer à respecter la parole de Dieu, s'appliquer à marcher dans les commandements de Dieu. Et pour cela, Paul explique plusieurs choses, trois choses en particulier qui se trouvent dans les Colossiens, mais je sais pertinemment que cet après-midi, on ne pourra pas voir tout cela. Donc on verra seulement deux choses. Quand on regarde Colossiens de manière particulière, on se rend compte qu'à trois reprises, il emploie le mot « maintenant ». Et je ne sais pas si vous réalisez la portée de ce qui est dit. Ça a été un petit peu partagé au travers de la présentation du chant tout à l'heure, le fait de réaliser. Et le fait de dire « maintenant », c'est un peu comme si je me tourne vers le passé et que je réalise ce qui s'est fait. C'est ce que nous a expliqué un petit peu le frère. Et quand Paul dit « maintenant », ces trois versets qui vont parler d'eux, avec ce mot « maintenant », il y a quelque chose qui nous invite à regarder ce qui s'est passé et à réagir en fonction. Je vous donne un exemple simple pour qu'on le comprenne bien, ce principe. Par exemple, je viens de changer une roue de ma voiture qui était en panne. Et quand on change les roues, ce qui se passe, c'est qu'on a les mains remplies de cambouis, ou quand on ouvre le capot, on doit changer une pièce dans la voiture, on a les mains toutes sales. Et puis, je veux me mettre à faire la cuisine. Vous comprenez bien qu'à un moment donné, il va falloir que je passe par le lavabo, au moins pour me laver les mains, minimum. Et à un moment donné, je pourrais dire, une fois que je me serai lavé les mains, maintenant, je suis propre et je peux faire la cuisine. Vous avez compris. J'ai pris un exemple très simple, mais c'est exactement ce que l'apôtre Paul fait sur des vérités spirituelles maintenant, et c'est ce que nous allons voir. La première vérité se trouve au verset 21 de ce chapitre 1er. Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Amen. Le deuxième se trouve au verset 25. C'est d'elle, donc c'est de l'Église, que j'ai été fait ministre, dit l'apôtre Paul, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Troisième lecture se trouve dans le chapitre 3, verset 5. Chapitre 3, verset 5, il est dit: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé. Amen. Vous avez noté les trois maintenant qui sont dits, et je vais les dire de manière résumée, de manière simplifiée, pour qu'on saisisse bien la pensée qui est là, et quand on étudie de manière attentive ces maintenant qui nous sont donnés, on voit qu'il y a une progression. Le but de l'apôtre Paul, comme je le disais tout à l'heure, c'est que nous devenions parfaits. Qui peut se dire cet après-midi, je n'ai pas besoin de devenir parfait, je le suis déjà. Il faudra que vous m'expliquiez votre recette. Mais je crois qu'on a tous besoin d'entendre ces choses et de les partager. La première maintenant qui est dit, c'est maintenant que vous êtes réconciliés avec Dieu. À ce moment-là, il faut que vous soyez tellement saisis de cette réalité que vous puissiez rendre grâce. Maintenant, deuxième chose, que le mystère vous a été révélé. Maintenant que vous avez compris que c'est en Christ que les choses se comprennent, que la sagesse prend toute sa forme. Maintenant, il faut que vous ayez ce courage de rejeter les fausses doctrines. Je vais vous expliquer après pourquoi. La troisième chose, il est dit, maintenant que vous êtes ressuscité, renoncez à tout ce qui est charnel. Renoncez à tout ce qui est terrestre. C'est ce qu'on vient de lire. Mais le premier aspect qui est donné, il parle de réconciliation. Et cette réconciliation dans notre cœur nous pousse à avoir de la reconnaissance. Si on lisait, on n'a pas le temps de le faire, je vous invite à lire les Colossiens. Je l'ai lu, moi, pendant de nombreuses fois d'affilée. Vous savez, les hommes ont mis des chapitres, ont mis des versets, et ce qui fait que des fois, on se perd parce qu'on ne comprend pas le but de pourquoi les lettres sont écrites. Mais quand on lit les Colossiens d'entrée, il n'y a que 4 chapitres, on se rend compte de ce que l'apôtre Paul a voulu dire. On se rend compte que quand il a écrit cette lettre, il était confronté à des personnes qui étaient en train d'enseigner des fausses doctrines, qui étaient en train de minimiser le Christ, qui étaient en train de dire que Dieu ne s'était pas fait réellement chair, que Jésus était venu sur la terre, mais il n'avait pas vraiment un corps d'homme. Et il y a eu toutes sortes de doctrines bizarres qui ont commencé à circuler. Et l'apôtre Paul, qui était en prison à ce moment-là, il avait à cœur de prendre soin de ces Colossiens, et il leur a écrit cette lettre pour les mettre en garde. Et la première chose qu'il a voulu leur partager, c'est ce maintenant. Maintenant que vous êtes réconciliés, il faut qu'il y ait cette reconnaissance qui jaillisse de votre cœur. Et s'il n'y a pas cette reconnaissance, si ce n'est pas naturel la louange qui jaillit de votre cœur, alors regardez pourquoi vous êtes réconciliés. Regardez comment vous êtes réconciliés. Regardez ce qui s'est passé. Et si on lisait tout, ça serait merveilleux, mais on n'a pas le temps cet après-midi. Donc je vous invite simplement à regarder ce passage de manière un peu plus précise. Au verset 21, c'est ce qu'on a lu. « Vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, ce regard sur le passé, et par vos mauvaises œuvres, mais il vous a maintenant réconciliés par sa mort, dans le corps de sa chair. » Le frère disait, Claude disait que c'est bien de mettre des sens sur les mots qu'on emploie. La réconciliation, qu'est-ce que c'est ? La réconciliation, c'est de remettre en accord, en harmonie, en paix, des personnes qui sont brouillées ou qui sont ennemies. C'est exactement ce que Jésus a fait. Il nous a réconciliés avec le Père pour nous tous qui l'avons accepté, bien sûr, ce salut. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y avait deux oppositions. Il y avait deux positions opposées. C'est-à-dire que nous étions d'un côté, nous étions sous le royaume des ténèbres, la puissance des ténèbres, alors que Dieu, lui, nous voulait dans le royaume du Fils de son amour. Nous étions incapables de prendre part à l'héritage, alors que Dieu, lui, ne voulait qu'une chose, c'est que nous puissions hériter de ce qu'il avait réservé à ses enfants. Nous étions sous le poids d'une dette immense, et Dieu voulait, lui, nous sortir cette dette. Nous étions ennemis parce que, sous la condamnation du péché, et donc, séparés de la présence de Dieu, c'est ce qui nous a été rappelé au travers de la Sainte Cène. Et la question qui se pose, c'est comment est-ce que nous pouvons franchir, comment est-ce que nous qui avons accepté le Christ, nous avons pu franchir l'abîme qui nous séparait du royaume de Dieu? Comment est-ce que nous avons pu être en paix avec celui que nous avons tant offensé, celui avec qui nous étions devenus ennemis? Comment est-ce que ça s'est passé? Eh bien, Dieu a fait le premier pas. Souvent, quand on est fâché, quand il y a besoin de réconciliation, il faut que les deux parties fassent le premier pas. Il faut que les deux fassent un effort, si vous voulez. Vous comprenez? Bien sûr, il y en a toujours un qui fait le premier pas, mais les deux doivent faire un effort. C'est pas inné, c'est pas facile, c'est pas naturel de se réconcilier. C'est pour l'homme, en tout cas. Mais Dieu, lui, qui est parfait, aurait pu se dire, celui qui m'a offensé, c'est lui qui devrait faire le premier pas. Pourtant, parce qu'il nous connaît si bien, il a choisi, lui, de nous réconcilier. et d'envoyer le moyen de réconciliation. Je pensais à cette petite histoire, un roi qui portait un manteau royal, donc manteau royal brodé d'or avec des pierres précieuses, et qui était là, qui défilait avec cet habit d'apparat, quelque chose de magnifique, et qui avait une prestance incroyable quand il le portait. Et puis, il est passé par la forêt à un moment donné, et son manteau s'est pris dans un buisson d'épines. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a été déchiré. Et on pourrait comprendre que le buisson d'épines était l'ennemi du manteau royal, parce que c'est celui qui pouvait arracher un morceau à ce manteau royal. Et quand ces choses se sont passées, il y a un bout de tissu qui est resté accroché donc au buisson d'épines. Et le roi a continué son chemin. Et puis, arrivé au palais, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Bon, il a mis du temps, on est d'accord. Mais en tout cas, il s'est rendu compte que, à cause de quelque chose qui était étranger, il manquait une partie de lui-même qui était restée en arrière. Et c'est comme, on pourrait dire cela, si le buisson d'épines est l'ennemi du manteau royal, le bout de tissu qui restait attaché au buisson d'épines, c'est comme s'il était devenu l'ennemi. Parce qu'il n'allait plus avec le roi. Il n'allait plus dans la direction du roi. Ce que le roi faisait, le buisson d'épines qui était à l'opposé de le faire. Il ne pouvait plus. Il était retenu par le buisson d'épines. Et je pensais aussi à la suite, à ce serviteur qui est venu, qui a pris ce morceau de tissu, qui a recouvert ce buisson d'épines pour plus qu'il puisse faire de mal, qui a pris ce morceau de tissu et qui allait le raccommoder sur le manteau du roi. Et ça m'a fait penser à l'homme. L'homme est le joyau de la création de Dieu dans le jardin d'Éden. Ce que Dieu pouvait se glorifier d'avoir créé l'homme. Il a dit que c'était quelque chose de très bon. Mais le péché l'a arraché. Le péché, ce buisson d'épines qui a arraché l'homme à la présence, à la communion de Dieu, et en a fait un ennemi, jusqu'à ce que Christ vienne se dépouiller et qu'il vienne nous réconcilier, nous raccommoder, on peut le dire comme ça, avec le Père. C'est très simple, mais c'est le Christ qui est le moyen de réconciliation. Dieu a voulu, au verset 20, Dieu a voulu, par lui, par Jésus, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Voilà sur quoi Paul il veut insister. Le seul qui a pu faire cette œuvre de réconciliation, c'est le Seigneur Jésus. Dieu n'a pas envoyé n'importe qui, Dieu n'a pas envoyé un ange, Dieu n'a pas envoyé un prophète, Dieu n'a pas envoyé le meilleur des prédicateurs, Dieu a envoyé son propre Fils, le Fils de son amour, une autre traduction dit le Fils bien-aimé. Et Paul, quand on regarde à partir du verset 14, il y a 5 ou 6 versets où il est expliqué le Christ. Qui c'est le Christ? De quelle manière est le Christ? Il y a une description incroyable de Jésus-Christ qui était là justement faite pour contrecarrer les fausses doctrines de l'époque. Vous allez me dire, mais oui, mais à quoi ça sert aujourd'hui de regarder ces descriptions du Christ? Parce qu'aujourd'hui, on a bien conscience que Jésus, c'est celui qu'on doit mettre au centre. Oh, mais je crois qu'on a besoin de partager ces choses. Verset 14, par exemple, il est dit, « En Jésus, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Ça veut dire que notre dette est effacée et nous sommes lavés du péché. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Il est celui qui nous montre le Père. Tellement de gens aujourd'hui cherchent Dieu dans la religion, mais ne cherchent pas Dieu en Jésus-Christ, qui est l'image du Dieu invisible. Et si vous voulez connaître Dieu, il vous faut connaître Jésus-Christ. C'est ce qui est dit. Il n'y a pas d'autre chemin, pas d'autre médiateur. Verset 16, « En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. » Est-ce que vous savez que Christ a existé bien avant, il est éternel, mais il est avant toute chose, bien avant que nos problèmes, bien avant que nos épreuves arrivent, bien avant que nos difficultés jaillissent de devant nous, Christ était là, bien avant toute chose. Et c'est quelque chose qui doit nous rassurer, de savoir que tout a été créé par lui et pour lui. Notre vie a été créée par lui et pour lui. Si le monde existe, si j'ai le souffle de vie aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a bien voulu, mais ma vie aussi a été créée pour Jésus-Christ. Est-ce que je vis avec cette réalité dans le cœur que j'ai été créé pour Jésus ou est-ce que je vis pour moi-même? C'est quelque chose qu'on doit se poser comme question. Il est dit un peu plus loin, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est le premier-né de la création, il est la tête, le premier de l'Église, il est le premier de ceux qui sont ressuscités. Christ est en tout le premier, et si j'appartiens à l'Église, si Jésus est la tête et que j'appartiens à l'Église, ça veut dire que je ne dois pas faire ce que moi j'ai envie de faire. Si Jésus est la tête, vous comprenez bien que ça veut dire que c'est lui qui est le conducteur, celui qui dirige, celui qui planifie, celui qui organise. Et est-ce que mes pensées, est-ce que mes idées, est-ce que mes conceptions ont quelque chose à faire et doivent intervenir dans mes choix? Ou est-ce que ce n'est pas le Seigneur qui doit me diriger et me guider? Si Jésus est la tête. Au verset 19, « Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. » C'est ce qui était dit dans le chant que la chorale a interprété. « J'ai soif de ta présence. Je sais qu'en toi, je vais trouver tout ce dont j'ai besoin. » Nous pouvons trouver la plénitude seulement en Jésus. Il y a des gens qui courent la terre, qui cherchent par tous les moyens à être heureux, à avoir cette paix. La Bible nous dit « Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. » Vous voulez être pleinement heureux? Cherchez Jésus. Vous voulez être pleinement en paix dans ce monde rempli de confusion? Cherchez Jésus. Vous voulez avoir cette reconnaissance qui jaillit de votre cœur? Cherchez Jésus et trouvez le Seigneur pour être réconcilié avec le Père. Jésus, cette description nous montre un Jésus divin, un Jésus qui est l'égal de Dieu, comme nous le dit la parole. Et c'est ce que l'apôtre Paul voulait faire ressortir particulièrement, mais il a bien expliqué que oui, ce Jésus qui était l'égal de Dieu, il a abandonné sa gloire et il est dit, alors je ne sais plus c'est quel verset, mais il est dit qu'il nous a réconciliés par sa mort. C'est au verset 20. Au verset 20, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, comment? Est-ce que Jésus a prononcé une parole, lui qui est avant toute chose, lui qui est puissant comme à l'égal de Dieu, est-ce qu'il a pu prononcer une parole qui nous a réconciliés? Non, il a fallu qu'il y ait le sang de la croix. Il a fallu que Jésus prenne forme humaine, qu'il soit Dieu manifesté en chair, qu'il accepte de mourir à la croix et il accepte de faire cette œuvre de rédemption dans chacune de nos vies pour que nous puissions être réconciliés. La réconciliation que Jésus nous offre, ce n'est pas une option. Et j'aimerais vous dire cet après-midi que si vous n'êtes pas réconcilié avec le Père, tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez dire, tous les comportements que vous pouvez avoir ne servent à rien. Et même s'ils sont les plus religieux, les plus avec l'apparence de la piété la plus incroyable, si vous n'êtes pas réconcilié avec le Père, ça ne sert à rien. Parce que seul Jésus est celui qui nous réconcilie. L'apôtre Paul a dit ailleurs dans les Corinthiens, il a dit, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec le Père. Nous vous en supplions, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pas une option, c'est pas quelque chose dont je peux me passer. Mais il faut que je sois réconcilié pour que je puisse avoir cette reconnaissance qui jaillisse de mon cœur. Souvent, on voit des gens qui sont là et qui ne savent pas quoi dire au Seigneur comme louange, qui ne savent pas quoi dire au Seigneur comme reconnaissance. Et je crois que quand on réalise de manière simple ce que le Seigneur Jésus a fait, quand on réalise quels sont les effets de la réconciliation, on est transporté dans le royaume du Fils de son amour. Imaginez, je reviens à cette histoire, le tissu qui est sur le morceau d'épine, sur le buisson d'épine, et qui se trouve confronté à une tempête, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la pluie va tomber dessus, il va se passer que le vent va faire ses ravages, il va se passer toutes sortes de choses. Mais celui qui est sur le manteau royal dans le palais, et que la tempête arrive, qu'est-ce qui se passe? Il est en sécurité. C'est exactement ce qui se passe quand Jésus nous réconcilie avec le Père. Nous sommes en sécurité. Il y a beau avoir la tempête au dehors, Nous sommes dans le royaume du Fils de son amour. Nous avons accès à tout l'héritage divin. L'héritage divin, il est merveilleux. Il se retrouve là-dedans. Je ne vais pas faire un résumé parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Mais lisez la parole pour voir quel est votre héritage. L'apôtre Paul, aux Éphésiens, il fait cette prière. Je prie que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous réalisiez quel est l'héritage, l'immensité de l'héritage qui est le vôtre maintenant. Non pas qui sera le vôtre plus tard, quand vous aurez fait des efforts, qui est le vôtre maintenant si vous laissez le Saint-Esprit vous ouvrir les yeux et par la foi le saisir. Est-ce que nous allons avoir ce cœur continuellement rempli de reconnaissance? Est-ce que nous l'avons déjà ce cœur? Si oui, eh bien, nous pouvons passer à l'étape suivante. Sinon, il faut déjà s'arrêter et dire « Seigneur, remplis-moi, ouvre mes yeux et donne-moi cette reconnaissance, aide-moi à comprendre ces choses. » Mais je reviens maintenant au second point, je finis avec ce second point. Colossiens chapitre 1, verset 25. C'est de l'Église que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà ce que le mystère qui a été révélé, ça veut dire dévoilé, ça veut dire comme si quelque chose avait un voile dessus et qu'on enlève le voile et qu'on peut maintenant saisir ce qui se passe. Le mystère nous a été révélé, le mystère c'est que Christ est l'espérance de la gloire. C'est-à-dire que si nous comprenons de manière vraie, de manière sincère ces choses, nous avons une espérance pour le futur. Nous avons une espérance pour le futur. Est-ce que si Jésus revenait, hier avec les jeunes, on a vu un film qui montrait le retour du Seigneur. Et je leur disais, mais si Jésus revenait demain matin à 8h, est-ce que vous seriez prêts? Est-ce que vous avez cette espérance dans le cœur? Est-ce que si Jésus revenait dans la seconde, vous seriez enlevés avec lui? L'espérance nous permet d'avoir cette assurance dans le cœur. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Certains ont fait certaines choses mauvaises pour avoir une espérance d'aller au paradis. Il y en a, les terroristes qui ont agi il y a quelques semaines, on leur a promis que s'ils faisaient tuer des infidèles, ils iraient au paradis. Et on leur a menti. Et pour moi, j'appelle ces choses des doctrines de démons. Quelque chose qui produit un fruit démoniaque. Le meurtre, l'atrocité, etc. Mais nous avons une espérance si nous recevons le Seigneur Jésus. C'est tellement simple. L'espérance, elle ne se trouve qu'en Christ. Et on parle avec des personnes, justement, qui ont une religion, mais qui n'ont pas d'assurance, et ils espèrent, ils voudraient bien que ça soit vrai. Ils aimeraient bien que à force de faire des bonnes œuvres, ils entreront au ciel, mais ils n'en sont pas sûrs. Ils le sauront le jour de leur mort. Mais pour certains, ça sera trop tard. S'ils n'ont pas accepté le Seigneur, ça sera trop tard. Voilà pourquoi nous avons besoin d'exprimer cette vérité. L'espérance, le mystère qui est révélé, c'est que l'espérance de la gloire, elle se trouve en Jésus-Christ. Mais aussi, Christ est le mystère de Dieu. Christ est ce mystère que nous avons besoin, nous, de proclamer. C'est bien de savoir que dans le ciel, on a notre place qui est réservée. C'est bien de savoir qu'un jour, on sera avec le Seigneur Jésus. Mais Paul, il désire aussi que les Colossiens, ils aient le cœur rempli de consolation, on voit ça au chapitre 2, verset 2, qu'ils soient unis dans l'amour, enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Christ, le mystère de Dieu, à savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Paul veut que les Colossiens, ils aient leur foi enracinée en Jésus, pour avoir cette espérance du ciel, mais pour que dans le présent, et puisse confesser le nom du Seigneur devant les hommes. Est-ce que ce n'est pas important de savoir où on va, mais que dès maintenant, aujourd'hui, si les gens nous font question de notre foi, nous soyons capables de confesser le nom de Jésus? Il y en a qui ont l'assurance d'aller au ciel, et qui en même temps ont une peur de parler de Jésus autour d'eux. Combien c'est important que nous puissions avoir la révélation du mystère de Jésus-Christ dans notre vie, qui soit vrai pour le futur, mais vrai aussi pour notre présent. Quand on lit l'Apocalypse, chapitre 21, on voit qu'il y a une liste de toutes les personnes qui vont se retrouver dans le lieu de tourment, dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui représente l'enfer. Il y aura les incrédules. Bon, ça nous paraît évident, ceux qui n'ont pas la foi en Dieu. Il y aura les abominables. Il y aura les meurtriers. Il y aura les débauchés, les magiciens, les idolâtres, tous les menteurs. Et à partir de toutes ces choses, on peut dire, mais oui, c'est vrai, tous ces gens méritent d'aller en enfer. Mais à côté d'eux, il y a une catégorie de personnes qu'on a bien souvent, bien moins souvent citées. Il y aura les lâches. Les lâches, ce sont ceux qui n'auront pas confessé le nom de Jésus, par peur des hommes. Ce sont ceux qui auront eu peur devant les hommes et qui ne se seront pas repentis. Pierre, il a eu peur devant les hommes. Pierre, il a renié son Seigneur, mais il s'est repenti. Il a pleuré amèrement. Il est revenu de tout son cœur et Dieu lui a pardonné. Jésus-Christ lui a pardonné. Mais en enfer, il y aura les lâches. Et cette parole nous invite à ne pas être lâche, mais à avoir cette force qui vient de la foi, communiquée par la foi, cette force qui vient de la parole de Dieu, parce que nous mettons en application ce que la parole nous dit. Christ, il est la clé qui ouvre tous les mystères, tous les trésors cachés de la sagesse et de la connaissance. À l'époque, vous savez, il y avait, donc je parlais des faux docteurs, mais il y avait cette doctrine en particulier qui disait que pour être sauvé, il fallait être quelqu'un d'initié dans leur religion, dans leur doctrine. Et ce qu'ils avaient fait, ces personnes, ces faux docteurs, c'est qu'ils avaient écrit un livre où ils avaient mis toutes sortes d'ordonnances, toutes sortes de prescriptions, et qui faisaient que ceux qui connaissaient l'intérieur de ce livre, ils pouvaient être sauvés. Mais celui qui commençait, celui qui n'était pas initié encore, il n'était pas sauvé. Et le nom du livre, il avait appelé caché, justement. Apocryphe. Alors, ça n'a rien à voir avec les livres apocryphes, c'est-à-dire les écrits qui ne sont pas reconnus comme étant dans la Bible. Mais c'était des livres de ces personnes, leur livre à eux, pour décrire leur religion. Et Paul est en train justement de remettre en question tout cela. Il leur dit que les trésors de Dieu, ils ne sont pas pour les cœurs incrédules. Ils ne sont pas pour la sagesse de ce monde. Ils ne sont pas pour la pensée charnelle. Ils ne se dévoilent qu'en Jésus-Christ. Christ est la clé qui dévoile les mystères de la parole. Et je ne sais pas comment vous lisez la Bible, mais j'espère que vous ne la lisez pas de manière routinière, comme j'ai pu le faire pendant des années, parce que ça apporte rien du tout. Mais quand on la lit avec la compréhension que Jésus-Christ veut nous parler par son Saint-Esprit, et que quand j'ouvre la parole, je fais cette prière, « Seigneur, donne-moi une parole qui va pouvoir affermir ma foi, qui va pouvoir fonder ma foi en toi », mais le Seigneur Jésus le fait. Seigneur Jésus honore la foi. Matthieu chapitre 11, verset 25 nous dit ceci. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées. À qui ? Aux enfants. Bien sûr, il est question de ceux qui prennent un cœur d'enfant, de ceux qui ont cette simplicité d'obéir à la parole dès qu'ils l'entendent. Chapitre 2, verset 8, je finis avec ce verset. Colossiens, chapitre 2, verset 8. Maintenant que le mystère est révélé, je vous ai décrit un petit peu ce mystère révélé, regardez ce que Paul dit. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Et l'apôtre Paul continue en disant « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Amen. Prenez garde. Si j'ai compris que le mystère qui est révélé, si j'ai compris qu'en Christ, tout est dévoilé dans la parole, tout prend son sens. Quand on lit l'Ancien Testament, il y a beaucoup de passages qui sont obscurs. Et si Jésus n'était pas encore venu, je crois qu'encore aujourd'hui, on se gratterait la tête en essayant de comprendre certaines choses. Mais parce que Jésus est venu il y a 2000 ans et qu'il a accompli toutes les prophéties qui le concernaient, et parce qu'il est, il est celui qui était prophétisé dans tous les livres de l'Ancien Testament, nous pouvons comprendre ces choses. Mais on ne doit pas seulement les comprendre et puis passer notre chemin. On doit les comprendre et avoir cette force intérieure de pouvoir rejeter ce qui n'est pas de la parole. Combien de chrétiens, malheureusement, se laissent berner par des doctrines qui jaillissent, qui fleurissent à tour de bras dans notre monde. Et avec Internet, on voit toutes sortes de choses bizarres qui prennent place. Et malheureusement, les gens, plutôt que de lire la parole, plutôt que d'être enraciné dans la parole de Christ, plutôt que de venir dans la présence de Jésus et de dire « Seigneur, enracine-moi en toi », ils préfèrent aller sur Internet, écouter un docteur en ceci, un ministère en cela, un prophète des nations. On entend toutes sortes de titres tellement bizarres sur Internet. Et on se laisse berner. Et on passe à côté de la parole. Mais l'apôtre Paul dit, vous avez le mystère qui a été révélé en Jésus. Par Jésus, vous pouvez comprendre ces choses. Mais maintenant, rejetez ces fausses doctrines. Je n'ai pas le temps de vous citer tout ce qui est donné. On le fera la prochaine fois. Mais je voudrais vraiment terminer avec ce verset. Vous allez me dire, ça fait déjà deux fois qu'il le dit. Chapitre 2, verset 6. Prenez garde au verset 8, mais au chapitre 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Maintenant que vous avez le mystère qui est révélé, prenez garde aux mauvaises doctrines, prenez garde aux faux docteurs, mais maintenant aussi marchez, et qu'à chaque pas que vous posez, ce soit un pas qui soit fait en Jésus-Christ. À chaque fois que vous mettez le pied quelque part, ça soit fait pour obéir à la parole de Christ. Et, dernière chose qu'il est dit, abondez en actions de grâce. Encore une fois, parce que je marche avec le Seigneur, parce qu'à chaque pas je vois sa main qui se pose sur moi, j'ai un sujet de reconnaissance. J'ai un sujet d'action de grâce. Abonder en action de grâce, ça ne veut pas dire « Merci Seigneur, et puis à demain ». Ça veut dire que continuellement, mon cœur est rempli de reconnaissance. Oui, j'ai une épreuve, mais dans la parole, je trouve un verset qui me donne du secours, qui me donne de la force. Et parce qu'il m'a donné de la force, j'abonde en action de grâce. Oui, j'ai un différend avec mon frère ou ma sœur, mais parce que je lis la parole, je vois qu'il faut se demander pardon, je vais me réconcilier avec mon frère et j'abonde en action de grâce. Souvent, on oublie de dire merci au Seigneur. Souvent, on est ces personnes qui sont là et qui refusent de dire merci ou qui oublient tout simplement de dire merci. Mais la Bible nous dit, parce que vous avez compris quel était le mystère, abondez en action de grâce. Ayez ce cœur rempli de reconnaissance. On va prier le Seigneur un instant, afin que sa parole puisse être gravée dans nos cœurs. L'apôtre Paul, en tout cas, pour que nous devenions parfaits, nous trace ce portrait magnifique de Jésus-Christ. Et il veut que les chrétiens de Colosse, il voulait que les chrétiens de Colosse mettent Christ au centre de leur vie, en toutes choses, par rapport à leur passé, par rapport à leur présent, par rapport à leur futur. Mon ami, cet après-midi, est-ce que tu es réconcilié avec le Père? Si tu ne l'es pas, alors viens à Jésus-Christ. Est-ce que tu es rempli de reconnaissance? Si tu ne l'es pas, considère la réconciliation que tu as subie par Jésus-Christ. Est-ce que tu veux aller plus loin, marcher avec le Seigneur? Tu ne pourras le faire qu'en Jésus-Christ. Est-ce que tu veux comprendre les mystères et qu'ils puissent être dévoilés à tes yeux? Cela ne sera possible qu'en Jésus-Christ. Oui, nous sommes chrétiens, mais nous voulons surtout pas nous targuer d'un titre. Nous voulons mettre en avant dans notre vie, dans tout ce que nous sommes, la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est lui le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. C'est lui le seul qui a offert sa vie, qui a subi la mort du corps de sa chair. C'est lui qui a versé le sang, qui nous donne la paix. C'est lui. C'est lui que nous voulons honorer cet après-midi. Mon ami, mon frère, ma sœur, toi qui n'as plus dans le cœur d'action de grâce, toi qui n'as plus de sujet de reconnaissance dans le cœur, ouvre les yeux sur Jésus-Christ cet après-midi et laisse le mystère se dévoiler à tes yeux et laisse la grâce de Dieu faire encore son œuvre en toi et laisse le Saint-Esprit te fortifier à nouveau et te permettre de repartir d'un nouvel essor. Toi qui étais découragé, toi qui étais dans l'abattement, toi qui étais peut-être dans le trouble à cause des choses qui sont en train de se passer dans ce monde, regarde à Jésus et sois dans la paix. Amen. Éternel, nous te bénissons pour ta parole. Nous croyons que ces choses qui ont été écrites il y a bien des années, elles sont encore valables pour nous aujourd'hui. Nous croyons, Seigneur, que ta parole, elle est esprit et vie, Seigneur. Elle communique la vie par le Saint-Esprit dans les cœurs de ceux qui ont la foi en toi. Seigneur, oui, nous voulons mettre notre foi dans ta parole. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour la réconciliation, pour ce fait que tu nous as réconciliés avec le Père, que nous sommes maintenant dans un royaume, le royaume du Fils de ton amour, Seigneur éternel, notre Père. Nous te bénissons, oui, pour ce que tu fais dans nos vies. Tu es celui qui veut nous amener dans la perfection, qui veut nous amener de progrès en progrès dans ta présence. Alors dans ces instants, Seigneur, oui, permets-nous de comprendre ces réalités et de marcher enraciné en toi, fondé en toi, de marcher sur le chemin de la vie, de marcher dans tes voies et, Seigneur, de pouvoir aller de l'avant avec toi. C'est là notre désir, c'est là notre prière. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que nous croyons que dans ce que tu as laissé aux Colossiens, tu as encore quelque chose à nous donner pour notre vie aujourd'hui, Seigneur. Alors nous voulons encore une fois te remercier pour toutes choses, abonder en actions de grâce. Oui, Seigneur, que dans chaque détail de notre vie, là où nous voyons ta grâce se manifester, nous puissions avoir ce cœur qui abonde en actions de grâce, Seigneur éternel. Pour la gloire de ton nom. Amen.